VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 en temps universel. Nous sommes mardi 16 mai 2017 au sommaire. Le gouvernement ivoirien se félicite du retour des mutins dans les casernes après un accord de sortie de crise. En République démocratique du Congo, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, investi ce matin, promet la tenue rapide d'élections. Regain de tension dans le sud-est de la Centrafrique.
Je condamne avec la dernière énergie cet acte criminel et odieux et qui sont contraires à la volonté du peuple centrafricain.
Le président centrafricain que vous entendrez dans le reportage de Freeman Sipilé en deuxième partie de cette édition. Et le président américain Donald Trump défend son droit de partager des renseignements avec la Russie après une nouvelle polémique sur sa rencontre avec le chef de la diplomatie russe. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est félicité ce matin du retour au calme à Abidjan et dans les autres villes secouées ces derniers jours par une nouvelle série de mutineries de soldats qui réclamaient le paiement de primes. Ils sont rentrés dans les casernes après l'annonce d'un accord. Narita Namasté à Abidjan.
Les soldats mutins de Boaké et de plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire ont accepté mardi l'accord annoncé la veille par le gouvernement ivoirien, permettant de mettre un terme à 4 jours de mutinerie dans plusieurs casernes de Côte d'Ivoire. Les militaires ivoiriens qui regagnent les casernes ont fait place mardi matin aux policiers, gendarmes et douaniers au corridor sud et nord de Boaké, où la circulation est fluide. À Korogo au nord, à Man à l'ouest, à Bondoukou à l'est, le constat est le même. Ici à Abidjan, précisément dans le quartier administratif et des affaires du plateau, les activités reprennent timidement. Plateau n'affiche pas son ambiance habituelle. Les rues sont loin d'avoir retrouvé leur activité habituelle. La population observe avant de sortir. Lundi soir, le ministre de la Défense, Alain Richard Denvoyé, avait annoncé avoir trouvé un accord, mais sans en préciser les modalités. Une conférence de presse du ministre de la Défense est attendue cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne, sans doute pour faire le point de cette mutinerie et le contenu de cet accord. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Et puis, plusieurs milliers de réfugiés centrafricains sont arrivés en République démocratique du Congo voisine à la suite d'un regain de violence dans la ville frontalière de Bangassou. Selon le HCR, 2750 réfugiés sont arrivés ce week-end dans les provinces de Bawele et Nord-Ubangi. Par ailleurs, la mission des Nations Unies en Centrafrique affirme être intervenue pour libérer des civils réfugiés dans une mosquée de Bangassou après la dernière attaque samedi de groupe anti-Balaka. 6 casques bleus ont également été tués en l'espace d'une semaine dans cette localité. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Investiture du nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo, Bruno Tshibala. Le nouveau chef du gouvernement a promis la tenue des élections dans les délais. Les détails avec Eddie Sango.
Bruno Tshibala a présenté son gouvernement et son programme devant l'Assemblée. Quelques députés du rassemblement dont il est issu ont boudé, mais il a été applaudi par d'autres membres du Parlement. Je tiens à affirmer devant la représentation nationale l'ambition, la volonté et la détermination d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire dans les délais convenus, a-t-il déclaré au cours de l'audience radio-télévisée. Il a toutefois rappelé que l'organisation des élections relevait de la Commission électorale nationale indépendante. Mais la CENI avait déjà prévenu que les élections ne pouvaient pas se tenir avant fin 2017 comme convenu dans l'accord politique signé le 31 décembre. L'ancien compagnon de lutte de l'opposant Étienne Tshisekedi a aussi promis d'organiser des funérailles dignes de sa personne. Monsieur Tshisekedi est décédé le 1er février, mais son enterrement est toujours l'objet d'une querelle entre sa famille politique et les autorités de Kinshasa.
Eddie Isongo, merci. Au Kenya, au moins 4 personnes ont été tuées ce mardi quand leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé à Liboi, dans l'est du pays, frontalière avec la Somalie. La police soupçonne l'implication des islamistes somaliens Al-Shabaab. Liboi est situé à environ 60 km du camp de réfugiés de Dadaab, qui abrite essentiellement des Somaliens sur le sol kényan. En Éthiopie, un ancien porte-parole d'un parti d'opposition a été jugé coupable d'incitation au terrorisme en raison de commentaires postés sur son compte Facebook. Jonathan Tesfaye avait été arrêté en décembre 2015 après avoir accusé la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, d'user de la force contre le peuple plutôt que de privilégier le dialogue pacifique avec le public. Jonathan Tesfaye risque 10 à 15 ans de prison. Les vols d'Air Algérie qui ont été suspendus plusieurs heures ce mardi dans le pays en raison d'une grève du personnel de maintenance ont commencé à reprendre après l'ouverture de négociations. Selon cette source, son document est en préparation pour être signé par les deux parties. Les revendications des grévistes étaient d'ordre salarial. Selon la direction d'Air Algérie, la grève entamée dans la matinée sans préavis a affecté les vols domestiques et internationaux au départ.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent africain à présent, accusé d'avoir été trop bavard avec le chef de la diplomatie russe, Donald Trump, a revendiqué ce mardi le droit de partager des renseignements avec Moscou pour que le Kremlin s'implique davantage dans la lutte contre le groupe État islamique. Le point avec Idriss Fall.
En tant que président, je voulais partager avec la Russie, comme j'en ai absolument le droit, des faits concernant le terrorisme et la sécurité aérienne, a écrit Donald Trump sur Twitter. Le chef de l'exécutif américain dit l'avoir fait pour que Moscou renforce nettement sa lutte contre le groupe État islamique. Il a dénoncé à nouveau les fuites venant, selon lui, du monde du renseignement qu'il a souvent critiqué. Selon le Washington Post, M. Trump a, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec Sergueï Lavrov, évoqué des informations ultra-sensibles. Le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale, a assisté à la réunion, a démenti sans toutefois contester que des informations classifiées aient été divulguées par le président américain. Selon le général, Messieurs Trump et Lavrov ont passé en revue les menaces posées par des organisations terroristes, y compris les menaces sur l'aviation civile. De son côté, le Kremlin a qualifié cette affaire de grand n'importe quoi.
Idriss Fall, la chef démocrate du Congrès américain, Nancy Pelosi, a refusé de se joindre aux appels à la destitution du président Donald Trump, accusé par ses détracteurs d'entrave à la justice et d'avoir donné des renseignements à la Russie. Sans dossier, on ne ferait que participer aux rumeurs, a-t-elle indiqué. Nancy Pelosi répondait ainsi à deux élus démocrates du Congrès, Al Green et Maxine Waters, qui ont appelé au lancement d'une procédure de destitution contre le président Donald Trump. Nouvelle tension entre les États-Unis et la Syrie. Washington accuse Damas d'avoir eu recours à un crématorium pour faire disparaître les corps de prisonniers assassinés par le régime en place. Précision avec Dilly Dico.
Les États-Unis ont accusé le régime du président Bachar al-Assad d'avoir brûlé dans un crématorium une partie des milliers de prisonniers assassinés au cours de ces dernières années. Washington a ensuite exhorté la Russie à faire pression sur son allié syrien pour qu'il mette fin à ces meurtres. Damas a rejeté en bloc ces accusations. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié ces allégations de totalement infondées et de scénarios hollywoodiens. Les accusations américaines sont fondées sur un rapport, photo satellite à l'appui, d'Amnesty International qui n'évoque pas de crématorium. Par ailleurs, les pourparlers indirects de Genève se compliquent par le refus des deux délégations de se parler face à face. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU, s'est entretenu ce matin avec la délégation du régime, conduite par l'ambassadeur syrien aux Nations Unies. Ensuite, le médiateur a rencontré les représentants de l'opposition.
Le président américain Donald Trump a reçu tout à l'heure son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sur fond de désaccord sur la question des milices kurdes. Cette rencontre intervient une semaine après l'annonce par Washington de la livraison prochaine d'armes aux milices kurdes syriennes dans le cadre de leur lutte contre l'organisation État islamique. Mais Ankara s'oppose à cette décision. L'alliance arabo-kurde soutenue par Washington a pris en moins de 24 heures une série de villages près de Raqqa, principal fief du groupe État islamique en Syrie. Vendredi dernier, les forces démocratiques syriennes avaient annoncé que l'assaut serait lancé au début de l'été, probablement en juin. Le 10 mai, elles avaient conquis la ville de Tabqa, un important verrou à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqqa. En Arabie Saoudite, un officier de police a été tué dans une attaque au lance-grenades dans une ville chiite de l'Est en proie à des troubles. L'officier est la troisième personne à être tuée dans des violences à Amawiya depuis le 10 mai dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, l'attaque a aussi fait 5 blessés qui ont été transportés à l'hôpital. En France, un homme en lien avec Karim Cherfi, qui avait tué un policier sur les Champs-Élysées à 3 jours du premier tour de la présidentielle française, a été placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à savoir d'où provient le fusil automatique utilisé pour tirer sur les policiers. Un fusil à pompe, 2 gros couteaux ainsi que des munitions avaient aussi été retrouvés dans son véhicule. Le chef des services secrets néerlandais a averti que le monde pourrait connaître prochainement un acte grave de sabotage numérique qui provoquerait troubles, chaos et désordre. Cet avertissement intervient alors qu'une cyberattaque mondiale sans précédent a fait plus de 200 000 victimes dans au moins 150 pays depuis vendredi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique dans la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
La Banque africaine d'import-export va investir jusqu'à 500 millions de dollars en Gambie, annonce du patron d'Afreximbank, Bénédicte Orama, après une rencontre hier à Banjul avec le président Adama Barrow. Afreximbank veut aider à remettre la Gambie sur les rails après le départ de nombreux investisseurs et le fléau de fraude généralisée sous l'ancien président Yahya Jammeh. L'argent sera consacré au tourisme, aux infrastructures et à l'agriculture. Les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire font le bilan des dernières mutineries qui paralysaient plusieurs villes du pays. La Bourse régionale des valeurs mobilières, le marché financier de l'UEMOA, basé à Abidjan, a clôturé en net baisse hier, soit son niveau le plus bas depuis le début de l'année. Les banques et leurs clients ont également été affectés après la demande de l'association des banquiers de rester fermés hier. Mais bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les prix de la fève tendent à s'améliorer. L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,1% au premier trimestre par rapport à la même période il y a un an, un niveau jamais atteint depuis début 2015 dans un pays confronté à de grandes difficultés économiques et sociales. Ce chiffre est dévoilé quelques jours après l'annonce par le président Béji Caïd Essebsi d'un recours à l'armée pour protéger les sites de production dont l'accès est parfois bloqué par des manifestations.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Manchester United prévoit des revenus records.
Et oui, Manchester United a élevé ses prévisions annuelles de rentabilité et de chiffre d'affaires attendues à un niveau record à l'issue d'un trimestre de janvier à mars, marqué pourtant par des pertes sur fond d'inflation des salaires pour le club mancunien. Le club de première ligue anglaise a expliqué dans un communiqué qu'il prévoyait désormais de dégager à l'issue de la saison un bénéfice brut opérationnel entre 218 et 230 millions d'euros. Les dirigeants mancuniens ont aussi relevé la prévision de chiffre d'affaires du club qui pourrait atteindre de 560 à 570 millions de livres sur l'exercice entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin de cette année contre 530 à 540 millions attendus jusque-là.
On reste en Angleterre avec ses matchs en retard.
Et oui, l'autre Manchester. Manchester City tentera de garder son avance sur Arsenal dans la course à la Ligue des Champions, alors que les deux équipes s'affrontent à distance ce soir lors des derniers matchs en retard du championnat d'Angleterre. En cas de victoire des deux équipes, ce mardi, tout se jouera dimanche lors de la dernière journée. Et Liverpool, troisième avec 73 points et un match en plus, entrera alors dans la danse. Une défaite éliminerait Arsenal, sauf si Manchester City s'incline également.
NBA, championnat de basket nord-américain, Boston en finale.
Oui, après une série extrêmement disputée contre Washington, ce sont les Boston Celtics qui ont gagné le droit d'affronter le champion en titre Cleveland en finale de la conférence Est de la NBA. Boston a remporté 115 à 105 le 7e et dernier match de la demi-finale de conférence, finalement bouclé 4 victoires à 3. Boston jouera une finale de conférence pour la première fois depuis 2012 et recevra lors du premier match, ce sera demain. Mais les Celtics de Boston auront le lourd privilège de se mesurer à Cleveland, le champion en titre qui a non seulement survolé les playoffs en ne perdant pas le moindre match en deux séries, mais qui a eu surtout plus d'énergie pour se préparer à cette finale.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La situation se normalise progressivement en Côte d'Ivoire après la mutinerie qui a secoué le pays. Un accord a été conclu hier entre le gouvernement et les mutins. Mais cette mutinerie a fortement affecté les activités économiques, comme nous le dit Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
À Adjamé, le principal carrefour commercial du pays et où se trouve l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la sous-région, ces quatre jours des mutineries ont été un véritable calvaire pour les commerçants.
Oui, hier, lundi, c'était pas trop stable, mais aujourd'hui, bah, apparemment, bon, ce matin, il n'y a rien là-bas, ça va. Bon, les clients viennent, quand c'est comme ça, c'est pas facile, hein. Tout le monde attend d'abord, bon, peut-être dans l'après-midi, pour que, bon, si les trucs s'améliorent d'abord, avant que les gens sortent, bon, pour le moment, un peu, quoi. On voit pas les clients.
Il n'y a rien, les clients viennent, il n'y a rien en tout cas. Aujourd'hui, ça va pour le moment, ça va.
Moi, j'ai fait rentrer la marchandise de Lomé, Abidjan, Accra, Abidjan. Pour le moment, ça va même pas. Hier, j'ai un camion qui devait rentrer ici, Noé. À cause de la mutinerie, le chauffeur m'a fait pour laisser le camion. Bon, il y a trop de problèmes, sincèrement.
Au plateau, centre des affaires, le constat est le même. Les boutiques qui ont ouvert leurs portes attendent d'éventuels clients.
C'est dur, c'est bloqué. Bon, depuis le matin, on assis, on ne reçoit personne. Bon, quelques-uns passent, bon, j'espère qu'avec le temps, ça va aller. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients, mais on est là.
De nombreux camions transportant des marchandises, dont des denrées périssables, sont restés bloqués pendant des jours au corridor de Boaké. Pour le président de la Fédération des commerçants des Côtes d'Ivoire, le préjudice est énorme. Farikous Maoro estime à plusieurs milliards les pertes enregistrées par les commerçants. Préjudice énorme également chez les transporteurs, contraints de réduire le trafic routier.
Les clients, ils ont peur, chacun reste chez eux. Le peu qui vient pour se déplacer pour les affaires, on est obligé de les prendre pour les envoyer chez eux. C'est-à-dire que la clientèle est coupée, c'est arrêté complètement même. La clientèle ne vient pas, et ils ont peur, chacun est chez soi.
Touré Adama, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire.
L'exemple de Boaké, ça fait depuis le jeudi pratiquement. Nos véhicules sont bloqués, tous les véhicules qui sont quittés au Mali, au Burkina et dans les zones vides de l'intérieur du pays, Korogo, Bundiali, Serké, tout ça sont bloqués. Nos passagers aussi souffrent. Nous sommes victimes de raquettes, d'humiliations et de toutes sortes de bastonnades pour certains chauffeurs qui essaient de faire des voies contournées. Vraiment, c'est déplorable.
Quatre jours de tension donc que les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire n'oublieront pas de sitôt. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la récente vague de mutinerie en Côte d'Ivoire. Des tirs à Boaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer reste intense entre ces militaires et le gouvernement. Qui sont les mutins? Que veulent-ils? Où en est la réforme de l'armée? L'État ivoirien a-t-il réglé définitivement cette crise? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec Tatiana Mosso et ses invités.
Un calme précaire règne à Bangassou après les récentes violences, c'est dans le sud-est de la République centrafricaine. Et selon la MINUSCA, 26 personnes ont trouvé la mort, 32 autres blessées côté population. Le nombre de déplacés est passé de 3000 à plus de 7000. La RDC voisine a aussi reçu des centaines de réfugiés. Freeman Sipila nous fait le point à Bangui.
Le pays connaît un regain de tension alors que tous les 14 groupes armés qui y sévissent sont désormais dans le programme national de désarmement, appelé encore DDRR. Plusieurs régions du nord-ouest, du centre et du sud-est ont été le théâtre de violences meurtrières ces derniers jours. Plus de 130 personnes sont mortes la semaine dernière suite à des affrontements entre l'UPC, groupe armé à majorité Peul, et les Antibalaka dans la localité d'Alindao. À Bangassou, on annonce que le bilan est lourd, mais pas de chiffres officiels. Dans la capitale Bangui, le temps monte. Faustin Akonjo Touadéra, président de la République.
De graves crimes ont été commis dans l'est du pays, notamment à Alindao, Bangassou et ses environs. Après des actes aussi malheureux commis récemment à Niamnieloa, des centrafricains sont morts à Bangassou. D'autres ont fui et sont rentrés en brousse. Des soldats de maintien de la paix, de la MINUSCA, sont morts
alors qu'ils sont venus porter assistance au pays, le tout par la volonté des hommes violents qui détiennent encore les armes. Je condamne avec la dernière énergie cet acte criminel et odieux et qui sont contraires à la volonté du peuple centrafricain.
L'indignation est aussi grande à la MINUSCA. La mission onusienne a perdu 6 casques bleus dans ces violences. Son chef, Parfait Onanga Anyanga, hausse le ton.
La force est en train de prendre toutes les dispositions qui saignent pour combattre ces ennemis de la paix de la manière la plus vigoureuse possible, sur le terrain, mais aussi sur le terrain du droit. Aucune personne qui aurait été mêlée de près ou de loin à ces horreurs ne connaîtra la paix, plus jamais. Nous poursuivrons ces personnes, nous les traquerons et un jour ou l'autre, elles feront face devant la justice internationale et nationale.
Dans le milieu politique, les réactions fusent de partout. Alexandre Ferdinand Guindé, président du Rassemblement pour la République, appelle le président centrafricain à plus de responsabilités.
Notre pays traverse une période très difficile en ce moment sur le plan sécuritaire. Le Rassemblement pour la République, en tant que parti d'opposition, de faire une proposition au président de la République qui touche les volets sécuritaires et sociopolitiques. Nous proposons que le chef de l'État accélère le processus du dialogue politique en vue.
L'association Coalition pour la Cour pénale spéciale, une organisation de la société civile, exige la justice pour les victimes. Fernand Mandendiapou, coordonnateur.
Nous, en tant qu'organisation de la société civile, membre de la coalition pour la Cour pénale spéciale, nous déplorons et condamnons toutes ces attaques contre la population civile ainsi que les forces onusiennes. Nous souhaitons que la justice soit rendue aux victimes. Faire justice pour les crimes graves est un impératif pour nous.
Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Cameroun, au deuxième jour de la grève dans les hôpitaux publics du pays, les médecins grévistes dénoncent les cas d'intimidation et les pressions extérieures pour étouffer leurs revendications. Le mouvement de grève n'a pas eu le succès escompté à cause de ces menaces, selon le syndicat des médecins du Cameroun. Le point sur cette situation avec Emmanuel Jultap à Yaoundé.
Mardi, à mi-journée, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé. Officiellement, le ministre serait venu présider une réunion de travail. Rien à voir avec la grève des médecins, selon un responsable de la structure qui a requis l'anonymat. Hier, certains médecins de cet hôpital ont été aperçus avec un brassard noir en guise d'adhésion à la grève. Et dans les services de diabétologie et de neurologie ce jour, certains médecins n'ont pas reçu les patients. Qu'est donc venu faire le ministre de la Santé publique à l'hôpital central de Yaoundé dans un contexte de grève ? Pour Dr Basson, président du syndicat des médecins du Cameroun, joint au téléphone depuis Bamenda, en zone anglophone du Cameroun, cette descente sur le terrain est loin d'être anodine.
Pourquoi tout cela? Tous ces directeurs-là ont tenu de parler au Cameroun hier matin des réunions. Pourquoi ils tiennent tous des réunions le même jour, la même heure le matin? Histoire de faire sortir les médecins de leur lit et de les inviter à l'hôpital. Le gouverneur devait aller aujourd'hui à l'hôpital à la cantine de Douala. Mais on se rend compte qu'il y a des menaces. On appelle certains médecins au téléphone de la maison de venir à l'hôpital. Ils passent de service en service avec des listes et ils disent aux médecins, si tu grèves, je quitte ton nom. Si tu ne grèves pas, je quitte pas ton nom. Mais il y a autant d'intimidation.
Déjà, à moins 5 jours du début du mot d'ordre de grève dans les hôpitaux publics, les 3 principaux responsables du syndicat des médecins du Cameroun avaient été affectés dans les zones les plus reculées du pays sous décision du ministre de la Santé publique. Parmi eux, Dr Patrick Ndoudoumou, secrétaire général du syndicat de passage à Yaoundé.
Qu'avons-nous fait pour mériter ces affectations disciplinaires? Est-ce parce que nous avons demandé que le médecin ne touche plus 105 685 francs? Est-ce parce que nous avons demandé que les médecins ne soient plus affectés sans salaire? Est-ce parce que nous avons demandé de maintenir les médecins plus longtemps en fonction de passer l'âge de la retraite de 55 à 65 ans? Ou alors est-ce parce que nous avons dit l'assurance maladie, c'est urgent, ça devient urgent parce que les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Dimanche, à la veille de la grève, une intervention du président du syndicat des médecins du Cameroun sur le plateau de la chaîne de télévision privée Canal 2 International avait été annulée à la dernière minute. Nos sources, bien informées et sous anonymat, dans cette chaîne, recusent cette version des faits et parlent plutôt de pression extérieure visant à étouffer la grève des médecins au Cameroun. Pour sa part, le gouvernement camerounais maintient que le syndicat qui appelle à la grève des médecins dans les hôpitaux publics est illégal. Yaoundé, Emmanuel Jeluntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'énergie solaire continue de gagner du terrain en Afrique, l'un des continents les plus ensoleillés. En avantage de taille, les panneaux solaires sont d'une installation facile, contrairement aux centrales électriques et lignes haute tension qui coûtent cher et prennent du temps. Le point avec Lionel Gaïma.
Le Kenya figure parmi les pays africains misant sur le solaire pour assurer son indépendance énergétique. Les panneaux voltaïques sont visibles partout, sur les maisons, les centres commerciaux et exploitations agricoles. La situation géographique du pays constitue un atout majeur, estime Ernest Chitechi du Centre climatique d'innovation de Nairobi.
Kenya lying on the equator has some of the best solar insulation in the globe.
À cheval sur l'équateur, le Kenya jouit d'un des meilleurs taux d'insolation au monde avec un potentiel de 4,5 kWh, ce qui est excellent. Et si cette énergie est bien captée, cela aiderait à stabiliser notre réseau électrique, en particulier dans la journée. Dans cette optique, les autorités kényanes ont imposé à partir de 2012 l'installation de chauffe-eau solaire dans tout bâtiment dont les occupants utilisent plus de 100 litres d'eau chaude par jour, explique Alvinder Gataora de la compagnie de construction métallique Steelstone Kenya. Chacun veille à l'installation de l'énergie solaire au moment de la construction de l'immeuble. Cela profite aux compagnies d'énergie solaire qui, à leur tour, nous donnent plus de travail. Madame Ruth Wairimu, habitante du complexe résidentiel de Green Park de Nairobi, assure que le concours de l'énergie solaire réduit nettement ses factures d'électricité.
Nous avons de l'eau chaude toute la journée et même la nuit selon le niveau d'utilisation, si bien que nous n'avons pas besoin d'utiliser l'électricité.
Dans les champs, les panneaux solaires opèrent à merveille, actionnant des pompes qui refoulent l'eau vers les réservoirs d'irrigation, se réjouit l'agriculteur John Mutugi. Avant, j'avais des problèmes d'eau, mais plus maintenant. Avant, j'utilisais une pompe et je n'avais jamais une bonne récolte. Depuis que j'ai fait installer le système solaire, j'exporte de janvier à décembre. L'engouement pour le solaire va croissant en Afrique, mais le coût des panneaux photovoltaïques reste encore hors de portée de l'Africain moyen. Les autorités kényanes comptent bientôt lancer un projet de 150 millions de dollars pour aider les communautés locales à installer des panneaux solaires sur les marchés, les écoles, les commerces et les maisons dans les zones éloignées du réseau électrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Town crowd, oh, but I can hear you call me baby with the music up loud. Red wine, good times, no, I don't mind being with everyone else. And then there's nights like tonight that I want you to myself. And tonight I wanna drive so far.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma. À la console, Curtis Bynum. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.